Karima pour la mise en onde. Eric Manirakiza vous souhaite une excellente soirée. À la prochaine.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bienvenue dans cette édition du 25 novembre 2020. Nathalie Barge à la présentation. Voici les titres. Le président du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kabore, est en tête de la présidentielle selon les résultats partiels. Expiration de l'ultimatum lancé par le premier ministre éthiopien aux Tigréens. La communauté internationale appelle à protéger les civils. En Algérie, un militant du Irak condamné à 10 ans de prison voit sa peine réduite à 1 an en appel. Des millions d'Américains voyagent pour la fête de Thanksgiving malgré la progression de la pandémie. Après le journal, ce sera l'actualité économique et les sports. Le président du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kabore, qui brigue un second mandat, devance ses adversaires selon les résultats partiels de la présidentielle du 22 novembre, annoncés par la commission électorale. Le point avec Bagassikoura.
Les résultats provisoires de 196 communes, ambassades et consulats généraux sur 368 égrenés par la CENI crédite Kabore de 58,14% des voix contre 14,25% pour le chef de file de l'opposition Zéphirin Diabré et 13,62% pour Eddy Kombouégo, le président du CDP, l'ex-parti au pouvoir. La CENI a une semaine pour proclamer les résultats. Le président Kabore, souvent taxé d'immobilisme face aux attaques djihadistes, vise comme en 2015 une victoire au premier tour. Une victoire qui lui permettrait d'éviter un second tour contre un candidat qui serait soutenu par l'ensemble de l'opposition. Une opposition burkinabé qui a estimé lundi que le double scrutin était témoigné de fraude et menace de ne pas accepter des résultats entachés d'irrégularité. Les partis de la majorité présidentielle ont pour leur part appelé mardi au respect des résultats du scrutin, considérant que les insuffisances relevées, bien que regrettables, ne sont pas d'une ampleur susceptible d'impacter de manière significative le résultat du scrutin. Une mission tripartite de la CEDEAO, de l'Union africaine et des Nations unies présente au Burkina Faso pour observer le scrutin, a de son côté rencontré des membres de l'opposition et de la majorité pour une diplomatie préventive selon des termes des membres de la mission. Ces élections n'ont pas pu se dérouler sur au moins un cinquième du territoire, privant entre 300 à 350 000 personnes de vote selon la commission électorale.
En Guinée, un dispositif policier renforcé a été déployé ce mercredi à Conakry après l'appel à manifester de l'UFDG pour réclamer la libération des opposants et contester la réélection du président Alpha Condé. Maintenu malgré l'interdiction des manifestations, l'appel du parti de Seloud Alain Diallo semble avoir eu un écho limité dans la capitale où aucun rassemblement n'a été rapporté. En revanche, les forces de sécurité ont dispersé des centaines de manifestants à l'abbé, selon des organisateurs. La délivrance du passeport de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo en liberté conditionnelle à Bruxelles après son acquittement par la Cour pénale internationale est en cours, a affirmé le porte-parole du gouvernement Sidi Tiémoko Touré. Il y a la nécessité de produire des documents administratifs. C'est un dossier ordinaire dans son traitement. Il ne faut pas en faire un cas spécifique, a dit M. Tiémoko Touré à l'issue du Conseil des ministres à Abidjan. L'ancien président du Burundi, Pierre Buyoya, a déclaré à Bamako avoir démissionné du poste de représentant de l'Union africaine au Mali pour laver son honneur après sa condamnation à la prison à perpétuité dans son pays. Il a dit ne pas savoir où il allait s'établir à défaut de pouvoir rentrer au Burundi. Condamné en octobre pour l'assassinat de son prédécesseur Melchior Ndadaye en 1993, M. Buyoya a exprimé son intention de faire appel devant les juridictions nationales et internationales. En Éthiopie, expiration ce mercredi de l'ultimatum lancé par le Premier ministre Abiy Ahmed au gouvernement du Tigré. L'armée menace d'intervenir à Mekele pour mettre fin aux velléités sécessionnistes des autorités régionales. La communauté internationale tire la sonnette d'alarme et appelle à protéger les civils. Le point avec Mouamadou Oumfa.
Alors que l'ultimatum de 72 heures s'achève ce mercredi soir, les belligérants campent sur leur position. Le président du Tigré, Debretsion Gebremichael, affirme que les siens sont prêts à mourir. Le premier ministre Abiy Ahmed, lui, se montre déterminé à intervenir et rejette toute interférence dans les affaires internes de son pays. La perspective d'un assaut contre Mekele, qui compte 500 000 habitants, outre un nombre indéterminé de déplacés qui s'y sont réfugiés depuis le début du conflit, inquiète la communauté internationale. Le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU appelle les parties à permettre aux civils en quête d'une aide humanitaire de traverser les frontières internationales et nationales. Le secrétaire général de l'ONU exhorte les dirigeants de l'Éthiopie à faire tout ce qui est possible pour protéger les civils. Une première réunion du Conseil de sécurité sur le conflit organisée mardi n'a donné lieu à aucune résolution ni même une déclaration commune. L'Union africaine a entamé une tentative de médiation, mais le gouvernement éthiopien a réitéré son refus à ce stade, précisant qu'il parlerait avec ses envoyés uniquement par respect pour les dirigeants africains.
Les autorités américaines ont annoncé des sanctions contre une milice libyenne et son dirigeant allié au maréchal Khalifa Haftar, accusé de violation des droits humains à Tarouna, à 80 km de Tripoli, où des charniers ont été découverts en juin. Mohamed Al-Kani et la milice Kaniat ont torturé et tué des civils lors d'une campagne cruelle d'oppression en Libye, a déclaré dans un communiqué le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin. Le militant algérien du Irak, Yassine Mebarki, a vu sa peine réduite en appel à un an de prison ferme. Il avait été condamné en première instance à 10 ans d'emprisonnement pour offense à l'islam. Abdourahman Dia.
Yassine Mebarki devra aussi payer une amende de 330 euros. Engagé localement dans le mouvement de protestation populaire du Hirak, il a été reconnu coupable d'offense aux préceptes de la religion, d'incitation à la discrimination et de possession de matériel de guerre sans autorisation, selon son avocat. En revanche, il a été relaxé des chefs d'inculpation plus graves, de profanation du Coran, d'incitation à convertir un musulman à une autre religion et de pression sur un musulman pour l'inciter à renoncer à sa religion, a précisé Maître Sassi. Cette condamnation s'inscrit dans une vague de répression ciblant des militants du Hirak, des opposants politiques, des journalistes et des blogueurs. Militant de la cause berbère, Yassine Mebarki, 52 ans, avait été arrêté le 30 septembre après une perquisition à son domicile. Il sortira de prison le 1er octobre 2021. Selon le Comité national de libération des détenus, quelques 90 personnes sont actuellement emprisonnées pour des faits liés à la contestation en Algérie, la plupart pour des publications sur Facebook.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Covid-19, nouveau bilan, nouvelles mesures, effets marquants. Yacouba Ouédraogo revient sur les dernières évolutions de la pandémie dans le monde.
La pandémie a fait entrer le Nigeria en récession pour la deuxième fois depuis 2016, menaçant de faire basculer un peu plus dans la pauvreté 200 millions d'habitants du pays. Ici aux États-Unis, Los Angeles ferme à partir de ce mercredi et pour au moins 3 semaines les restaurants, brasseries et bars qui ne pourront pratiquer que la vente à emporter. Le secrétaire à la santé en Californie, Mark Gully, appelle à éviter les grandes réunions de famille à l'occasion de Thanksgiving. En France, le président Emmanuel Macron a annoncé un assouplissement du confinement à partir de samedi, avec une réouverture des commerces dits non essentiels. Les bars et restaurants devront quant à eux attendre le 20 janvier et leur réouverture sera conditionnée à une amélioration de la situation sanitaire. Le confinement de la population prendra fin le 15 décembre. La Commission européenne a mis en garde contre un assouplissement trop rapide des règles anti-Covid au risque de déclencher une troisième vague de l'épidémie après Noël. Tokyo exhorte ses habitants à éviter les sorties non essentielles et demande au commerce servant de l'alcool de fermer plus tôt, alors que le nombre d'infections augmente au Japon. Le virus a touché environ 59,8 millions de personnes dans le monde, faisant plus de 1,41 million de morts. Les États-Unis comptent le plus de morts, plus de 259 000.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée par John Linden.
L'État du Sénégal a levé mardi un peu plus de 103 milliards de francs CFA auprès des investisseurs opérant sur le marché financier de l'UEMOI au terme de son émission par adjudication des bons assimilables du Trésor de maturité 28 jours dénommé bons social COVID-19. À travers cette opération, indique Financial Afrique, le Sénégal entend couvrir les décalages des trésoreries créés par la lutte contre la pandémie de COVID-19 et ses conséquences. Au Nigeria, l'inflation globale a grimpé pour le 14e mois consécutif. Réuni les 23 et 24 novembre 2020, le comité de politique monétaire de la Banque centrale du Nigeria a indiqué avoir noté avec préoccupation que l'inflation est en hausse pour le 14e mois consécutif en glissement annuel passant de 13,71% en septembre 2020, son plus haut niveau depuis mars 2018, à 14,23% en octobre 2020, soit son niveau le plus élevé depuis février 2018. Nouakchott vient d'affecter près de 10 millions de dollars à l'extension de la société Chantier Naval de Mauritanie. Il s'agit du seul chantier naval dans le pays basé à Ouagadougou, la capitale économique. À travers cette extension, le ministère des Pêches et de l'Économie maritime compte construire de nouvelles usines de réparation navale. L'objectif affiché est de booster la pêche artisanale dans un contexte marqué par une forte baisse des recettes du secteur de la pêche due à la pandémie du coronavirus.
À présent, les sports présentés par Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Diego Maradona est mort. Le footballeur argentin de 60 ans est décédé ce mercredi après un arrêt cardio-respiratoire. Diego Maradona a été hospitalisé pendant plus d'une semaine et opéré d'une hématome à la tête. La légende argentine a quitté l'établissement à bord d'une ambulance sans faire aucune déclaration. Le champion du monde en 1986 avait été hospitalisé pour de l'anémie et de la déshydratation le 2 novembre à La Plata, une ville située à 60 km de Buenos Aires et dont il entraîne le club local. Un scanner avait alors révélé la présence d'un hématome sous-dural, une poche de sang formée sous la boîte crânienne. Cela avait entraîné son transfert dans une clinique privée d'Olivos où il a été opéré le lendemain avec succès. Maradona a forgé sa légende surtout lors de la Coupe du Monde en 1986 au Mexique où il est sorti champion avec son équipe argentine, mais surtout le but marqué de la main en quart de finale face à l'Angleterre, un but qualifié de main de Dieu, mais également le second but où il a dribblé presque toute l'équipe anglaise pour traverser le terrain et inscrire sa réalisation, un but désigné en 2002 par la FIFA, but du XXe siècle. Dans le reste de l'actualité, le président de la CAF, Ahmad Ahmad, suspendu 5 ans par la commission d'éthique de la FIFA, a décidé de faire appel de sa suspension auprès du tribunal arbitral du sport. D'après son équipe de défense, cette dernière juge que la commission n'a pas rendu sa décision de façon juste et impartiale, invoquant notamment le fait que le cabinet PwC, engagé par la FIFA pour auditer sur l'administration du football africain, œuvrait jusque-là pour la CAF et sous mandat de cette dernière, créant selon Ahmad un conflit d'intérêts. Le malgache invoque aussi des rumeurs dans la presse faisant état de ce que la FIFA aurait mis la pression sur la commission d'éthique pour obtenir sa suspension. Il dit aussi que la commission a refusé d'entendre une partie de ses témoins. Ahmad avance que la commission s'est précipitée pour le suspendre afin de l'empêcher de briguer un deuxième mandat à la tête de l'instance en mars prochain. L'appel n'étant pas suspensif de la sanction, la défense du malgache a décidé de demander au TAS de suspendre cette décision de la commission. Suite de la quatrième journée de la Ligue des Champions ce soir en Europe, le choc de la soirée se jouera à Milan où l'Inter reçoit le Real Madrid. L'autre club italien, l'Atalanta Bergame, ira défier Liverpool à Anfield. Marseille accueille le FC Porto, le Bayern Munich joue à domicile face au Red Bull Salzbourg, l'Atlético Madrid reçoit le Lokomotiv Moscou, Manchester City se déplace chez les Grecs d'Olympiakos, le Borussia Mönchengladbach reçoit le Shakhtar Donetsk et l'Ajax Midtjylland. Deux Africains figurent sur la liste des 11 joueurs finalistes du prix FIFA de Best dévoilé par la FIFA. Il s'agit bien évidemment du Sénégalais Sadio Mané et de l'Égyptien Mohamed Salah.
Merci beaucoup Yacouba pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. Maintenant, les dossiers du jour. Les Burkinabés sont dans l'attente des résultats provisoires du double scrutin de dimanche. Dès l'annonce des résultats partiels de quelques communes, l'opposition a crié à la fraude et à de nombreux dysfonctionnements dans l'organisation de ces élections présidentielles et législatives. Écoutons quelques réactions à Ouagadougou au micro de notre correspondant Lamine Traoré.
Bon, moi je pense que peut-être les opposants ils trouvent qu'ils ont perdu et ils veulent faire des problèmes. Sinon je ne vois pas, sinon ça a été transparence. Nous tous on a tous voté, on a suivi le dépouillement. Donc ils ne peuvent pas dire maintenant que non, qu'il y a des fraudes. Non.
Non, il n'y a pas eu de fraude.
Il n'y a pas eu de fraude. Il n'y a pas eu de fraude.
Dans le bureau de vote que j'ai voté même, je voyais même des trucs qui n'allaient pas passer. Il y a d'autres qui ne voyaient même pas leur nom. Il y a d'autres même qui ne trouvaient même pas leur bureau de vote. C'est ce que j'ai constaté dans les bureaux de vote, là où j'ai voté.
Vous comprenez un peu ce que l'opposition fait, ce que l'opposition dit?
Bon, en tout cas, je comprends un peu parce que en voyant la situation qui se passait même déjà, on savait que ça n'allait pas aller comme il fallait.
Mais il y a des fraudes ou il n'y a pas de fraudes. Ce qui est sûr, n'a qu'à accepter le résultat seulement. Sinon, nous, ce n'est pas bagarre dans notre pays. Ce qui est sûr, c'est quand on dit celui qui a gagné, tout le monde n'a qu'à pardonner. Ok.
Même s'il y a fraude, tout le monde n'a qu'à accepter.
Il y a des fraudes. Mais il n'y a pas beau sans fraude. Entre nous deux, là, toi tu cherches, moi je cherche. Si tu as eu, c'est fraude. Si moi j'ai eu, c'est fraude.
Ah bon?
Oui. Celui qui n'a pas gagné, pardonnez, celui qui a gagné, ça commence.
Moi, je pense que dans la réalité, soit fait, la vérité soit fait. Même si c'est comme à la démocratie, ça a été toujours comme ça. C'est celui qui a le pouvoir, c'est celui qui gagne le pouvoir. Moi, je pense que c'est comme ça.
Donc, ça veut dire qu'il y a eu fraude selon vous?
Même s'il y a eu de fraude, c'est l'opposition seule qui plaint. Et non pas au président sortant ou bien un autre candidat.
Ce que je peux dire, c'est une marche continuelle vers la démocratie. Elle peut ne pas être parfaite, elle est en dents de scie, mais pourvu que nous allions inévitablement vers une perfection de notre démocratie. Et pour ce qui concerne les irrégularités, je pense que nous avons une justice qui a même invité les différents partis qui constateraient des irrégularités de les saisir à eux maintenant de faire appliquer la loi.
Donc vous demandez au Conseil constitutionnel de se prononcer sur cette situation.
Bon, bien évidemment, si cela peut être une solution, je dirais, arrangée, qui arrange, je dirais, tout le monde.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Le président élu américain Joe Biden a présenté quelques-uns des futurs membres de son administration, notamment les chefs de la diplomatie et de la sécurité nationale. Monsieur Biden poursuit le processus de transition en dépit du fait que le président Donald Trump n'a toujours pas concédé la défaite. Un reportage de Patsy Widakuswara, correspondante de la Voix de l'Amérique à la Maison Blanche, Le récit est de Dilidico.
Mardi, le président élu Joe Biden a annoncé les membres clés de son équipe en matière de politique étrangère et de sécurité nationale.
C'est une équipe qui reflète le fait que l'Amérique est de retour, prête à diriger le monde et pas à s'en éloigner. L'Amérique, à nouveau en tête.
Si le Sénat confirme les nominations, deux anciens fonctionnaires du département d'État ayant servi dans l'administration Obama s'occuperont de postes diplomatiques de premier plan. Anthony Blinken, ancien secrétaire d'État adjoint, est le choix de Biden pour diriger le département d'État. Linda Thomas-Greenfield, ancienne secrétaire d'État adjointe aux affaires africaines, est en passe de devenir la prochaine ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies.
L'Amérique est de retour. Le multilatéralisme est de retour. La diplomatie est de retour.
La vision de Biden mettant en avant les alliances historiques et le multilatéralisme marque un virage face à la doctrine de l'Amérique d'abord prônée par le président Trump. John Hudak travaille pour la Brookings Institution.
Biden veut restaurer le type de foi que les Américains et les dirigeants du monde entier avaient autrefois dans le gouvernement américain et qu'il estime que l'administration Trump a terni au fil des années. Ce message est donc important pour les dirigeants du monde, dont beaucoup, à l'exception des dictateurs et des despotes, ont vraiment eu du mal à travailler avec l'administration en place.
Les nominations de Biden mettent l'accent sur la diversité. Si elle est confirmée, Avril Haines serait la première femme à diriger les services de renseignement et Janet Yellen serait la première femme à la tête du Trésor. Alejandro Mayorkas serait le premier latino à diriger le département de la sécurité intérieure et Jake Sullivan, 43 ans, serait l'un des plus jeunes directeurs à la sécurité nationale. L'ancien secrétaire d'État John Kerry, qui a négocié l'accord de Paris sur le climat, dirigera les efforts de Biden pour lutter contre le changement climatique. C'est une claire rupture avec la politique de Trump qui a qualifié le réchauffement climatique de canular et retiré les États-Unis de l'accord sur le climat que Biden prévoit de rejoindre dès le premier jour. Pendant ce temps, le marché boursier américain a atteint un record mardi suite à l'annonce que les agences fédérales entameront un processus de transition formelle, mettant fin à des semaines d'incertitude. Trump, qui avait déclaré que si Biden gagnait, le marché boursier allait s'effondrer, s'est attribué le mérite de cette embellie lors d'une apparition arrangée à la hâte.
Sur le marché boursier, l'index du Dow Jones vient d'atteindre 30 000 points, le niveau le plus élevé de l'histoire.
Trump, qui n'a toujours pas concédé, n'a pas mentionné Biden ou la transition dans ses remarques, ni lors de la cérémonie du pardon de la dinde de Thanksgiving à la Maison Blanche.
Joyeux Thanksgiving à tous. Merci beaucoup.
Écoutez VOA Afrique, désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique, dans tout le continent africain, sur la chaîne 555 de Canal+.
Les Américains préparent Thanksgiving, la fête traditionnelle d'action de grâce, dans un contexte particulier cette année 2020. En pleine pandémie de COVID-19, des millions de personnes voyagent dans le pays pour se retrouver en famille jeudi, en dépit des mises en garde des centres de contrôle des maladies. Un reportage de Carole Pearson avec un récit de Lionel Gaïma.
Ces jours-ci, les aéroports et les gares des États-Unis grouillent de passagers rentrant dans leur région d'origine pour la Thanksgiving. Des milliers d'autres voyagent par la route, tous font fi des conseils des spécialistes de la santé de rester sur place pour éviter la propagation du COVID-19. Becca Yanez a acheté son billet d'avion.
Il ne reste pas eu de Thanksgiving en famille depuis 12 ans. Ainsi, donc, avec les billets tellement moins chers, et comme j'ai déjà eu le Covid, je me suis dit, parfait, je peux aller quelque part.
Selon les experts, avoir contracté le nouveau coronavirus ne confère pas nécessairement l'immunité, certaines personnes l'ayant eu plus d'une fois. Pour les étudiants américains, c'est la raison du retour à la maison pour la fête ou pour un séjour plus long. L'université où étudie Will Mason a annulé les cours en classe.
Je suppose que je n'ai pas vraiment le choix.
Les spécialistes de maladies infectieuses reconnaissent le dilemme. Catherine Lee est médecin au centre médical Cedars-Sinai de Los Angeles.
And I understand the...
Je comprends le désir de voyager en ce moment de l'année. Nous avons eu une année si dure et c'est le moment des fêtes. Et nous voulons être en compagnie des amis et des membres de la famille. Mais il est aussi important de rester sur place.
Chaque jour apporte un record de nouvelles infections, déplore le Dr Lee, qui recommande de manger en plein air si possible, de maintenir les fenêtres ouvertes et aussi d'éviter les foules et les restaurants.
Le principal mode de transmission sur lequel nous devons maintenant nous concentrer, ce sont les gouttelettes respiratoires, d'où ce changement de recommandation. Vous devez porter un masque. S'il vous plaît, portez un masque, tout le monde, portez un masque et respectez la distanciation sociale.
Autre mauvaise nouvelle en pandémie de COVID-19, des millions d'Américains voyageront le week-end après le Thanksgiving, avec le risque d'attraper le virus ou de le propager sur le chemin du retour. Une perspective qui inquiète les experts en santé publique, comme le Dr Joe Gerard de l'Université de l'Arizona.
Nous avons 2 à 3 terribles semaines devant nous. Si nous ne changeons pas nos comportements et nos politiques, les 3 semaines qui suivront seront pires.
Les experts s'attendent à ce que le taux d'infection au COVID-19 explose à travers les États-Unis juste avant les congés de Noël et du Nouvel An, en partie à cause des célébrations de la Thanksgiving. Et c'est une situation que le reste du monde devrait observer attentivement à l'approche de ses autres congés.
C'est la fin de cette édition. Un grand merci à toute l'équipe de production pour la technique. À la présentation, c'était Nathalie Barge. Merci beaucoup d'avoir suivi Le Monde aujourd'hui. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. À très bientôt et bon courage.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Entre le 21 septembre et le 11 novembre de l'année 1621, 53 hommes, femmes et enfants anglais ont été rejoints par 90 Indiens américains dans une fête d'action de grâce pour leur première récolte dans leur colonie de Plymouth, dans ce qui est aujourd'hui l'État du Massachusetts. Ils avaient tant de choses pour lesquelles ils étaient reconnaissants. Juste un an plus tôt, à la mi-novembre 1620, ils faisaient partie d'un groupe de 102 colons et 30 membres d'équipage ayant atteint les côtes de l'Amérique du Nord à plus de 350 km au nord-est de leur destination choisie. Malgré tout, les colons optimistes ont décidé de s'installer sur la terre ferme de l'autre côté de la baie de Cape Cod, où ils avaient jeté l'ancre. Ils ont entrepris de créer une communauté dans laquelle ils pouvaient vivre selon leurs propres croyances religieuses. Cette première année avait été difficile, menaçant de détruire la colonie avant qu'elle n'ait pris racine. En une année, près de la moitié des 102 colons a péri de famine, de maladies et des rudes conditions de l'hiver. Mais l'été a apporté une bonne récolte et en automne, 22 hommes, 4 femmes, 9 adolescents, 4 adolescentes et 12 enfants se sont réunis pour célébrer avec leurs voisins indiens de la tribu des Wampanoag. Le Massachusetts n'est pas le premier État à revendiquer la célébration de la première Thanksgiving, fête d'action de grâce. De nombreux documents historiques indiquent que les explorateurs espagnols et d'autres colons anglais avaient tenu des services religieux d'action de grâce en Floride, au Texas, au Maine et en Virginie, bien avant 1620. Toutefois, c'était des célébrations isolées qui n'ont pas survécu à l'épreuve du temps. À la suite d'un vigoureux plaidoyer de l'État du Massachusetts la Thanksgiving moderne a été officiellement établie dans tous les États en 1863 par une proclamation présidentielle d'Abraham Lincoln. La célébration de cette fête a été poussée à la quatrième semaine de novembre par le président Franklin Delano Roosevelt. La Thanksgiving a commencé comme une prière de reconnaissance par les immigrants qui, sans le soutien de leurs voisins indiens, n'auraient probablement pas survécu durant leur première année en Amérique du Nord. Bien que la Thanksgiving soit traditionnellement une occasion de se réunir avec les proches et les amis, la menace actuelle de la pandémie du Covid-19 fera en sorte que beaucoup de gens célébreront seuls à la maison.